Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude d'un petit livre, mais d'un livre extrêmement important. J'aime bien normalement alterner l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous venons de terminer l'épître de la joie, Philippiens, la lettre de Paul aux Philippiens. Avant de revenir à l'Ancien Testament, j'ai pensé qu'il serait bon de continuer avec l'épître de Paul aux Colossiens. Encore une fois, c'est une petite lettre de Paul qui ne fait que 95 versets, 4 petits chapitres, mais c'est un livre d'une grande richesse et dont le thème est la prééminence de Jésus-Christ. Paul a écrit cette lettre aussi depuis la prison. Et on va lire ensemble les premiers versets. Page 227 dans la Bible à la colombe. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Nous allons nous arrêter là et donner un peu le contexte de cette lettre. La plupart des lettres de Paul ont un thème principal. Par exemple, dans Romains, c'est le fait qu'on est déclaré acceptable, juste, justifié par la foi. Dans Philippiens, nous avons vu que le thème, c'était la joie que Jésus amène dans nos vies, dans nos cœurs. Dans Éphésiens, que nous avions fait il y a quelque temps, nous avions vu le mystère de Christ et de l'Église. Ici, ça va être le fait que Jésus-Christ est prééminent, il est suprême, il est au-dessus de tout, et il est totalement capable de satisfaire tous les besoins que nous pouvons avoir. Il y a l'expression « il est suffisant ». Le seul danger en français, c'est que le mot « suffisant », ça veut dire qu'on a l'impression qu'on sait tout et qu'on est orgueilleux. Mais il est suffisant dans le fait qu'on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à sa personne pour connaître Dieu, pour vivre et pour être en relation intime avec le Dieu qui nous a créés. L'épître aux Colossiens va nous montrer que Jésus, c'est la tête de toute la création. Encore une fois, si vous croyez qu'il n'y a pas eu de création, vous allez avoir du mal à recevoir tout ce que Jésus veut vous offrir. Il est la tête de toute la création et il est la tête absolue de l'Église. De l'Église avec un grand E majuscule, accent aigu, l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'Église sur toute la terre. Et bien sûr, c'est l'Église avec un grand E, ce sont tous les croyants qui adorent, qui connaissent Jésus-Christ, qui adorent Dieu en esprit et en vérité par Jésus-Christ. C'est aussi s'il est la tête de toute l'Église, il doit être la tête de chaque Église locale. Et ça, c'est un danger qui guette tout pasteur, c'est de penser qu'il est, il est le patron dans son Église. Calvary Chapel Nice, ce n'est pas l'église de Pierre ou l'église de Pierre et Nancy ou l'église de Pierre, Nancy, Tonio, Jenny et les Flores ou de Pierre et... Non, c'est, et c'est notre prière, que ce soit l'église de Jésus-Christ. Ce soit lui qui influence, qui dicte, plus qu'influencer, qui dicte les programmes, qui dicte les directions où l'église doit grandir. Et si ce n'est pas lui, alors on peut, moi je retourne à la pêche. Moi j'aimais beaucoup la pêche à la ligne, la pêche au saumon, la pêche à la truite. Et si ce n'est pas lui, tout ce qu'on fait, c'est en vain. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, alors les ouvriers travaillent en vain. Nous voulons vraiment que... être redevable, nous sommes redevables bien sûr, nous avons une responsabilité vis-à-vis des églises, de la pastorale, qui nous, si on faisait des choses bizarres, aurait tout à fait la possibilité de venir nous dire « attendez, ça ne va pas ». Nous sommes redevables à la Fédération évangélique de France, dont nous avons connu hier, la semaine dernière, l'ancien secrétaire général. Nous sommes redevables à Calvary Chapel à Seattle. Ils savent un peu ce qui se passe ici. Si je commençais à faire des choses bizarres, à vous faire rouler par terre en aboyant, je crois qu'on aurait des nouvelles. Mais avant toute chose, nous voulons être redevables à Jésus-Christ. C'est lui le chef de l'Église. Dans l'Église de Colosse, il y avait un problème, comme il y a un problème dans beaucoup d'églises. Et ce problème, c'est que on dit toujours qu'on est pour Jésus-Christ quand on est une église chrétienne. Même les témoins de Jéhovah disent qu'ils sont une église chrétienne. Il y a bien Jésus-Christ, mais ce n'est pas le Jésus-Christ qui est décrit dans la Bible, qui est mon sauveur parce qu'il est particulier, et nous allons l'étudier. Le plus souvent, il y a toujours quelque chose qui est rajouté à Jésus-Christ. Les fausses doctrines ajoutent quelque chose de bizarre, de, on dirait en juif, qui n'est pas kosher, ou en France, qui n'est pas catholique. Pas pour dire que les catholiques ont tout juste. On le sait, il y a des problèmes. Ils vont mettre Jésus-Christ et puis une spiritualité extrême. Ça va être Jésus plus un mouvement particulier du Saint-Esprit qui va faire qu'on va rire dans l'esprit, on va se rouler par terre. Ça va être la bénédiction de Toronto aujourd'hui. Il va y avoir Jésus et un certain style de ministère. Il y a une église, par exemple, qui voulait régimenter la vie de ses adeptes, de ses disciples. Si vous voulez vous marier, si vous voulez prendre un travail, vous devez venir en parler aux anciens qui vont vous dire s'ils vous donnent leur accord ou pas. Il y a des tas d'endroits où Jésus ne suffit pas. On ajoute quelque chose d'autre, généralement une doctrine fausse. On va vous dire, il n'y a pas loin d'ici et je suis vraiment... Je veux vous mettre en garde parce que je sais que vous avez des contacts, notamment par le GBU, avec des jeunes chrétiens à qui on enseigne des mensonges. Il y a des gens qui viennent d'églises, de la prospérité. Alors l'idée, c'est qu'on va pouvoir leur enseigner la vérité, leur montrer leurs erreurs. Mais quand je vois quelqu'un qui dit en ligne, qui se régale à lire tout Kenneth Hagin, En anglais, on dit « I cringed ». I cringe. Ah, non, c'est pas possible. J'espère qu'il va pas vous contaminer. Soyez sur vos gardes. Il faut discerner, aimer et discerner. Et puis une fois qu'on a discerné, il faut quand même aimer, mais aimer, ça veut dire corriger aussi. Ou ne pas vous laisser entraîner dans de fausses doctrines. Cette doctrine de la prospérité va dire « Oui, Jésus-Christ, c'est formidable ». Mais Jésus-Christ, s'il est vraiment là dans votre vie, alors vous allez avoir la Mercedes, vous allez avoir le travail, vous allez avoir la santé, vous allez avoir la beauté, vous allez tout avoir. Et si vous n'avez pas ces choses-là, alors c'est qu'il y a quelque chose de... C'est une fausse doctrine. Et encore une fois, ce n'est pas contre les personnes que nous en avons. C'est contre le mensonge qui vient du diable, qui veut vous détourner de Jésus-Christ. Dans ce livre, Paul va nous montrer que c'est Jésus plus rien du tout d'autre. Si vous avez Jésus, vous avez tout. En lui règne la plénitude de la divinité, de Dieu. Et votre seul souci, ce serait de connaître Jésus davantage. De servir Jésus davantage, d'aimer Jésus davantage, de servir Jésus davantage dans cet ordre-là. Quand on le connaît, on ne peut que l'aimer. Quand on l'aime, on veut servir en retour, on veut lui montrer notre reconnaissance. On veut aider à ceux qui ne le connaissent pas à connaître la même bénédiction. Et si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, il y avait tout un chapitre, le chapitre 19, qui parlait du ministère de Paul à Éphèse. Et que dans cette ville, Paul enseignait à longueur de journée dans l'école de Tyrannus, et que ça avait continué pendant cet enseignement, verset Actes 19-10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et ça, c'était à Éphèse. Éphèse, on peut visiter les ruines de cette ville qui se trouve sur la côte occidentale de la Turquie, sur la mer Égée. Et à l'intérieur des terres, à 100-150 kilomètres, on peut voir les ruines d'une ville qui s'appelle Hiéropolis. Et puis une autre ville, on nous dit plutôt, parce qu'on ne voit plus les ruines, qui étaient à côté, c'était la ville de Colosse. Et il y avait à côté aussi la ville de Laodicée. Ces villes, il en est question, Laodicée notamment dans l'Apocalypse. Mais lorsque... Le docteur Luc nous dit que toute l'Asie avait entendu la parole du Seigneur. Ça veut dire toute cette région d'Asie mineure, toute la Turquie occidentale d'aujourd'hui avait entendu parler de l'Évangile, avait entendu plutôt. Et parmi ces gens, il y avait 2 personnes. Il y avait Épaphras, dont on va parler davantage, et Philémon, pour lequel Paul a écrit aussi une petite lettre. Et tous les deux étaient originaires de cette ville. Ils ont entendu l'évangile qui était enseigné par Paul. Ils ont reçu le salut. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois qu'ils ont été sauvés, ils sont allés enseigner. Ils sont retournés à Colosse pour parler à leurs amis de Jésus. Et c'est ainsi que l'Église s'est formée et on pense qu'il y avait une autre personne dans cette Église, Archippus, dont on parlera plus loin. Et donc c'était une Église qui s'était constituée et qui, au départ, marchait, enseignait de la bonne doctrine et croissait dans le Seigneur. Et Dieu faisait un grand travail dans cette petite ville. Laodicée, on apprend qu'il y a eu un tremblement de terre dans les années 60, à peu près à l'époque de notre ère, à l'époque où Paul écrit cette lettre, ou juste avant, après plutôt. Les trois villes dont je vous ai parlé étaient à peu près de la même importance, mais c'est Laodicée qui est devenue un centre politique important, et Hiéropolis qui est devenu un centre économique important, et Colosse est restée une ville petite qui vivait un peu à l'ombre de ces deux autres villes. Est-ce qu'il y a des Toulonnais ici? C'est un peu comme Toulon. Entre Marseille et Nice, ils ont du mal, de plus la marine qui voit des budgets réduits. Colosse n'a pas grandi. Et il y a un commentateur qui a dit, en fait, Colosse était la ville la moins importante, ou plutôt la plus insignifiante, à qui Paul n'ait jamais écrit une lettre. Et ça, c'est important, parce que ça montre que, encore une fois, toute parole est inspirée par Dieu, tout mot de la parole, je crois, l'inspiration verbale de la parole, toute parole que vous trouvez dans votre Bible est inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Et si Dieu a jugé bon d'envoyer une lettre à cette petite église d'une petite ville, c'est parce que c'est important pour lui de nous montrer que ce qui compte, ce n'est pas la taille de la ville, sa richesse, mais ce sont les gens qui habitent là. Alors c'est vrai qu'on se dit qu'il vaut mieux commencer une église dans un grand centre urbain, il y a plus de monde, on peut faire plus de ministères, mais lorsque Dieu dirige, il y a des très grandes églises qui ont commencé dans des toutes petites villes. Dans l'État de l'Oregon, il y a notamment un pasteur affilié au mouvement de Calvary, John Corson, qui a commencé une église dans une ville où il n'y avait pas 500 habitants, et l'église compte une dizaine de milliers de fidèles. C'est comme si Dieu a voulu bénir cette petite communauté, et il l'a tellement béni que les gens viennent de très loin pour participer au ministère de cette église. Il n'y a pas de petites gens pour le Seigneur, il n'y a pas de gens qui ne soient pas importants. Et ça peut-être, s'il y en a qui se sentent plus tard appelés à démarrer des églises, c'est vrai qu'on a tendance à commencer par des villes où il y a certaines populations. Mais si vous voulez commencer une église à Nantes ou à Saint-Martin, vous auriez un beau centre là pour les week-ends d'église, tous les week-ends. C'est tout à fait possible. C'est pas et donc le fait que Colosse n'ait jamais grandi, mais pourtant Dieu avait un message important qu'il voulait leur faire communiquer. Il y avait une ville qui était sur un chemin d'échange économique. Si on voulait partir vers l'Asie, vers l'Est, on passait par la route qui passait d'Éphèse à Laodicée, à Hiéropolis, à Colosse. Et donc, il y avait, qui dit commerce et trafic, dit toujours de tas d'influences. Il y avait toutes les religions étaient représentées, toutes les spiritualités étaient représentées. Il y avait les dieux grecs, les déesses grecques, le mysticisme oriental. Il y avait plein de choses qui étaient représentées. Et parce que l'Église prospérait, que de plus en plus de monde était touché par l'Évangile, beaucoup de ces autres groupes venaient et commençaient à introduire des fausses doctrines dans l'Église. Et ça, c'est souvent l'approche des cultes, des sectes, des cultes, c'est le mot anglais, pardon, les sectes. Ils vont rarement tout seuls dans un endroit, ils vont là où ils peuvent repérer des gens qui ont soif de Dieu parce qu'ils les voient touchés par l'Évangile, et ils vont venir et leur dire « Ah mais attends, ce qu'on t'enseigne, ce n'est pas suffisant. Moi, je t'apporte un deuxième livre. La Bible, c'est très bien, mais regarde le livre de Mormon. Oh, c'est dommage que tu ne l'aies pas lu. On va venir te l'expliquer. » Et il y a cet aspect de cancer qui est répugnant chez les sectes, c'est qu'ils n'ont pas le courage d'aller tout seul démarrer quelque chose parce que ça ne tiendrait pas la route. Les gens diraient non, je sais que tout le monde ne peut pas être riche et beau et en bonne santé, mais ils vont profiter comme les champignons s'approfitent, ils vont profiter de ce qui existe déjà. Et nous devons, encore une fois, être très vigilants, avoir beaucoup de discernement pour reconnaître ces intrus qui veulent détourner, qui veulent dévoyer, qui veulent pervertir l'enseignement pur de l'Évangile. Il y avait, on parle en termes bibliques de l'hérésie de Colosse. On n'est pas exactement sûr, parce qu'on n'a jamais trouvé de texte disant voici ce que c'était, mais on connaît les hérésies du moment, et une des hérésies du moment, c'était le gnosticisme, la doctrine gnostique. Vous connaissez le terme agnostique. Gnostique, ça vient de connaissance. Agnostique, c'est celui qui ne sait pas si Dieu existe, ou qui dit ne pas savoir si Dieu existe. Un agnostique, c'est un non-connaissant. C'est quelqu'un qui est, ça veut dire vraiment, on pourrait traduire ça par ignorant. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « je suis agnostique », ah, tu veux dire que tu es complètement ignorant. Là, ils se rebifferont un peu, peut-être. Mais ces gens, cette doctrine disait qu'en fait, il y avait quelque chose à connaître. On atteignait une certaine spiritualité en apprenant des secrets. Et que ceux qui ne sont pas dans ce secret ont une spiritualité inférieure, qui ne sont pas au même niveau que ceux qui ont la connaissance. Et c'est un terme qui est encore utilisé, je sais, dans certaines sectes. Malheureusement, ma sœur a été prise par une secte, la secte du Guru Maharaji, la mission de la lumière divine. Et là aussi, il fallait atteindre une certaine connaissance. Et une fois qu'on avait cette connaissance, on avait des étoiles dans la tête, de la musique, et là, d'un seul coup, on était supérieur à tous les pauvres chrétiens qui se contentent de l'Évangile, à tout. Jésus, c'est très bien, oui, c'était un des grands maîtres, enseigne-t-il. Mais Mahomet et Bouddha aussi sont des grands maîtres. Cette connaissance, elle est pas pour le commun des mortels. Il faut arriver à une certaine, par certains efforts, à recevoir cette connaissance de personnes qui sont déjà initiées. Souvent, c'est le cas, même dans certaines églises, de certains chrétiens qui veulent vous dire qu'en tant que nouveau chrétien, vous ne pouvez pas atteindre à toutes les profondeurs de richesses qu'ils ont découvertes. Et il y a une certaine vérité, bien sûr, que plus on a le temps d'approfondir la connaissance de Jésus-Christ, plus on va être béni. Mais ça, ce n'est pas réservé à certains qui ont déjà fait des études de grec et d'hébreu et d'herméneutique et de parapsychologie ou je ne sais pas quoi. Tous, si vous ouvrez votre cœur à Jésus, vous avez tous les trésors, toutes les bénédictions spirituelles sont à votre main, sont en vous. Peut-être qu'il faut prendre le temps de les connaître, de les apprécier, mais il n'y a pas de choses secrètes pour lesquelles il faille payer un groupe pour faire des formations particulières qui finalement vont vous donner cette connaissance. Un des autres aspects de cette doctrine de la gnose ou des gnostiques de l'époque, c'était qu'il faisait une distinction entre la matière et l'esprit. Et seul l'esprit était pur et beau, Et la matière était essentiellement mauvaise. Alors c'était en contradiction avec la doctrine biblique de la création. On revient à André Guen. Si la matière est mauvaise, impure, sale, dégueulasse, intouchable, on tourne les intouchables, pom, les hindous. Vous voyez, toutes les fausses doctrines sont en contradiction avec la pureté de l'évangile. Si la matière est si mauvaise, alors Dieu n'a pas pu la créer. Alors ils avaient une autre idée, ils ne parlaient pas d'évolution, ils parlaient d'émanation. Les émanations, c'était comme des influences, des choses qui venaient de Dieu et qui se répercutaient un peu comme des ondes de choc. Dieu était là, mais il n'était pas à l'interface de la divinité et de la matière. Il avait simplement suscité des émanations. Aujourd'hui, une émanation, c'est souvent une mauvaise odeur. Il y a des émanations de gaz. Ça venait de lui, mais ce n'était pas lui. Et donc, il y avait une succession d'émanations qui, finalement, étaient comme des espèces de dieux, mais de moins en moins proches du vrai Dieu. Et à la fin, c'était des dieux inférieurs. Et finalement, il y avait un petit dieu, une émanation lointaine du vrai Dieu, qui pouvait toucher la matière et qui avait créé le monde. Donc ils n'étaient pas à l'idée imbécile de dire que rien plus temps égale tout, ce que les gens qui affirment l'évolution veulent vous faire croire. Ouvrez les yeux, ouvrez votre intelligence et dites-leur c'est stupide, c'est complètement imbécile, monsieur le grand chercheur, docteur de je ne sais pas quoi. N'ayez aucune intimidation devant les diplômes, devant les trucs, quand il n'y a pas la sagesse de Dieu, quand on vous dit que le monde a été créé par l'évolution. C'est aussi stupide que de dire que ça a été créé par l'émanation. Et ça conduisait à une hérésie concernant Jésus-Christ. S'il était vraiment le Fils de Dieu, il n'avait pas pu prendre un corps physique. La matière, c'est sale, c'est dégueulasse. Ah non. Et donc, il pensait qu'il n'avait pas pris. Il n'était pas venu en chair et en os, comme on dit, mais qu'il était venu comme un fantôme. Et ça veut dire qu'en fait, s'il n'était pas vraiment un homme. Ça, c'est tout l'enseignement de Romains et des autres épîtres de Paul. Il ne peut pas être notre sauveur. Une chose importante aussi, c'est que cette conception du monde, ça avait deux conséquences opposées, mais possibles, et on tombait dans un camp ou dans l'autre. Ça affectait la façon éthique de voir le monde. Si nos corps sont pourris, sales, indigne de Dieu, alors deux possibilités. Soit on va essayer de faire des progrès par l'ascèse, par l'ascétisme. Ça peut conduire à l'ascétisme. On va jeûner, on va se battre, on va se renier les désirs de notre corps, on va vivre en ermite, on va se flageller. Là aussi, flagellation. Pensez les pèlerins en Espagne qui se frappent le dos par ascèse pour essayer de mortifier le corps et d'exalter l'esprit. Ça, c'était une première conséquence. L'autre, c'était de se dire si la matière est mauvaise et que l'esprit seul est bon, alors avec la matière, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas grave. Faisons avec nos corps ce que nous voulons. Donc, c'était la porte ouverte à toutes les débauches. Et ils n'avaient aucun scrupule, aucun complexe. Ils avaient réglé dans leur tête que mon corps, je peux y aller à fond la caisse. C'est sale de toute façon. Par contre, l'esprit, c'est ça qui est sain. C'est ça qui... Et ça, c'est des choses qui existent encore dans l'Église aujourd'hui. Il y en a qui pensent que oui, ils ont une connaissance supérieure des choses. On l'a vu, Deutéronome 29, 28 ou Deutéronome 29, 29, l'adresse en anglais, les choses révélées appartiennent, sont pour les hommes à qui Dieu les a révélées. Les choses non révélées, elles sont à Dieu. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'il nous révélera peut-être de l'autre côté de l'éternité, mais n'allez pas croire certains qui vous diront « je sais d'où, pourquoi Dieu a créé le Satan et j'ai découvert toutes ces choses ». Ceux qui parlent des choses secrètes et profondes de Dieu sont des gens qui veulent s'auto-exalter. C'est l'orgueil qui les conduit. Une des choses de l'enseignement de Calvary Chapel qui est formidable, c'est que, certes, il faut avoir une connaissance de la Bible, savoir qu'on prend le texte et on en parle. Mais ce qui est merveilleux, c'est que on a l'impression, moi, la chose qui m'a frappé quand j'ai entendu mon pasteur Wayne expliciter la Bible, j'ai dit, mais je crois que c'est quelque chose que je pourrais faire avec un peu d'expérience, un peu d'étude. C'est pas parce que je suis un grand homme spirituel, mais c'est formidable de faire ça, de regarder ce que dit la Bible, de voir comment ça s'applique. Et notre pasteur de Seattle a ainsi implanté des dizaines d'églises aux États-Unis, des dizaines d'églises dans le monde. Des gars qui viennent suivre les cours, qui entendent comment la parole est explicitée, qui lisent la parole, s'ils veulent avoir des informations, ils vont dans la parole, puis se disent, mais j'en sais plus que mon voisin de travail. Je sais pas tout encore, mais peut-être que je peux lui dire qu'il y a de l'espoir, qu'on n'est pas le fruit du hasard, qu'il y a une création, qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous aime. Ça suffit. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est que on ne veut pas donner l'impression que ce qu'on fait, c'est quelque chose de supérieur. Qu'on est des gens hyper spirituels. Vous me connaissez, si vous avez passé un peu de temps à l'église, vous savez que je suis un homme plein de péchés, de l'orgueil, de la dureté, que je remets les gens en place des fois méchamment, que ne me mettez pas sur un piédestal, c'est pas parce que je suis sur une estrade que vous devez me... Et trop souvent, parce que ça appelle, ça fait plaisir à la chair, les gens veulent donner cette image. Je suis un pécheur sauvé par grâce comme vous. Et j'espère que quand on voit des gens simples qui peuvent annoncer l'Évangile et qui peuvent faire avancer l'Évangile, que ça vous donne envie de dire, mais après tout, pourquoi pas moi, plutôt que de devenir docteur toute ma vie, je vais soigner les gens, mais ils vont mourir un jour et puis après... Peut-être que je peux leur donner la vie éternelle. Pas leur donner, mais leur montrer le chemin de la vie éternelle. Ne nous donnons pas de grands airs. Le grec et l'hébreu, c'est comme un... Quelqu'un disait, c'est comme un sous-vêtement. Moins on le voit et mieux ça vaut. Si vous avez appris le grec, si vous avez appris l'hébreu, tant mieux. Mais n'en faites pas étalage. Ne faites pas étalage de vos diplômes. Soyez quelqu'un d'humble, parce que la réalité, c'est que tous autant qu'on est, on n'est pas grand-chose. Amen. Et donc, Paul va vouloir lutter contre cette fausse prétention de certains. Donc, il y en a qui... Encore une fois, Paul dit dans... Paul, mon homonyme Pierre, dans 2 Pierre 1,3, dit... Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître Jésus. Il dit en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. En Jésus, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne, même la vie d'évangéliste, de pasteur, de Jésus plus rien de plus. Une autre façon dont cette doctrine du gnosticisme est toujours présente dans l'Église, c'est l'infiltration de la philosophie. L'infiltration de doctrines et spéculations, surtout humaines, qui ignorent la révélation divine. Alors je sais que c'est un problème, on en parle souvent, il y a la philosophie, il y a la psychologie, et là aussi il y a une partie de la psychologie qui est bonne dans le sens où elle recherche à écouter l'autre, mais il y a des tas de théories psychologiques qui sont du baratin, qui sont des inventions humaines. Alors qu'on utilise la méthode de psychologie, qu'on approche les gens avec empathie pour les faire parler, tout ça, c'est des choses. Mais le conseil chrétien, ça existait à l'époque de Paul. Il n'y avait pas de psychologue qui vous mettait sur un lit pour vous faire remonter dans votre premier cri. On ne veut pas rejeter toute la psychologie, mais dans notre pays, c'est aussi une des grandes tendances, dans notre pays qui est le premier pays à prendre des drogues psychotropes, la psychologie est devenue une autorité comparable, supérieure à la Bible. Quand il y a un accident d'avion, qu'est-ce qu'on envoie ? Est-ce qu'on envoie des prêtres ou des pasteurs avec l'amour de Dieu ? Non. On dit, vous ne faites pas de soucis, on a mis en place une cellule de psychologues. Ne m'envoyez pas des psychologues. Envoyez-moi des gens qui connaissent Jésus-Christ, d'accord ? Et encore une fois, même dans l'Église, c'est pour ça que André Hagen a un ministère très important, il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui ont du mal avec la théorie de la réalité de la création. Ça va tellement à l'encontre de ce qu'on a reçu pendant des années comme un bourrage de crâne qui refuse Dieu, que même dans les églises, si on faisait un sondage, la plupart des gens ont du mal à prendre la théorie de la création telle qu'elle. Sans être dogmatique, pourquoi ne pas croire qu'un jour de création, c'était 24 heures, ou que ce n'était pas une ère? Parce que si on croit ça, André Hagen l'explique mieux que moi, comment ça se fait que les plantes ont pu survivre pendant des millions d'années avant que le soleil ne soit créé. Mais toutes ces doctrines, l'ennemi n'est pas très intelligent, il est limité. Et il utilise toujours les mêmes techniques. Dominique Ferry nous a rappelé qu'il y a toujours les trois grosses ficelles, l'argent, le sexe et le pouvoir. Et il tisse ça comme il veut, et nous sommes comme des poissons qui allons attraper un leurre. Ça, c'est pour vous donner un peu l'introduction de cette lettre aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. Apôtre, ça veut dire qu'il est envoyé de Christ et il sait que c'est par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est, je crois que tous nous recherchons cette volonté. Si on pouvait vendre un livre avec la garantie que vous allez connaître la volonté de Dieu exactement pour votre vie, ce serait un best-seller. Je ferais fortune si j'écrivais ce livre. La volonté de Dieu, il y a déjà une volonté générale. Il y a plein de passages dans la Bible qui disent « Voilà ce qu'est la volonté de Dieu. Ne vous adonnez pas à l'immoralité, c'est la volonté de Dieu, de ne pas vous voir dans l'immoralité. » Et des tas de passages, on n'a pas le temps de les voir tous. La volonté de Dieu, on a l'impression des fois que c'est si je suis ici. Maintenant, c'est la volonté de Dieu. Et si j'étais là, j'aurais désobéi à la volonté de Dieu de ne pas être là. Alors ça, c'est aussi, je crois, limiter Dieu dans son amour et dans l'amour, la liberté qu'il nous donne dans son amour. Si vous aimez quelqu'un, vous ne le programmez pas comme un automate. Mais vous le dirigez, vous l'aimez, vous lui montrez des voies à suivre et vous lui laissez le choix de suivre ses voies. Lorsqu'il y a cette intimité, lorsqu'il y a cette relation, il va y avoir le sentiment d'être dirigé. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que je peux dire, je suis pasteur par la volonté de Dieu? Si on m'avait dit ça il y a 25 ans, j'aurais dit, ça ne va pas la tête. Franchement. Je voyais mon pasteur et je disais, jamais je pourrais faire son travail. Tous les problèmes, toutes les situations douloureuses, les problèmes de personnes, l'enseignement, le mardi, le mercredi, le jeudi, le dimanche. Merci, mais pas pour moi. Mais petit à petit, parce que j'ai voulu faire, je me suis laissé guider par lui, je suis arrivé à ce que je crois être sa volonté. Et pour tous, ce qui compte, c'est votre intimité avec lui. Il va vous diriger par les circonstances, par l'Esprit Saint qui vous parle, par la joie que vous avez à faire quelque chose. Je n'ai pas un moment à moi. J'ai très peu de loisirs. Mais tout ce que je fais me passionne. Et je remercie Dieu d'être là où il m'a placé. Et Paul, lui aussi, être apôtre, ce n'était pas simple, mais c'était la volonté de Dieu. Il parle du frère Timothée. Timothée était toujours dans les bons coups. Hein. Il était avec Paul en prison. Il était venu auprès de lui à Rome. Il écrit aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Les saints, encore une fois, pour ceux qui ont un arrière-plan catholique, c'est pas les statues, c'est pas les gens qui ont avaient une spiritualité plus profonde, qui ont fait don de leur vie. Tous ces gens peuvent avoir été dans la volonté de Dieu, et tant mieux. Mais être saint, c'est simplement être mis à part pour Dieu. Et celui qui est saint, celle qui est une sainte, c'est simplement la personne qui connaît Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes un saint et une sainte. Peut-être que je ne suis pas un petit saint, peut-être que vous n'êtes pas une petite sainte, dans le sens où vous n'êtes pas parfait, mais c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres. Il y a une anecdote, il y avait un enfant qui regardait dans une église où il y avait des vitraux, il voyait le soleil qui traversait les vitraux. D'ailleurs, ça serait joli d'avoir des vitraux là. Regardez là, derrière là. Des vitraux. Et il demandait à sa maman, mais c'est qui ces gens-là qui sont sur les vitraux? Et sa maman lui disait, ce sont des saints. Et à l'école du dimanche, la semaine suivante, on lui a demandé, qu'est-ce que c'est que des saints? Et le petit garçon a dit, c'est des gens à travers qui brille la lumière. C'est ça être un saint, c'est avoir Jésus-Christ en nous et que ça brille. On n'est pas à dire, oui, je suis chrétien parce que j'ai une grosse Bible ou j'ai un poisson sur le dos de la voiture. Non. J'aime bien quand on voit des personnes comme Dominique. Tellement, tellement simple, tellement, tellement doux, tellement, tellement gentil, foncièrement. Il brille, il est comme un vitrail. Il y a la lumière qui brille à l'intérieur. Et il y en a plein d'autres ici. Même si ce n'est pas moi. Les fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. On a souvent tendance, une fois de plus, à lire ces choses comme des formules de politesse. Mais la grâce, bien sûr, c'est l'amour non mérité que Dieu nous offre. Et c'est ça qui nous donne la paix. On dit que grâce, c'était charis, c'était la salutation en grec. La paix shalom, c'est jusqu'à aujourd'hui la salutation en hébreu. Certains disent donc en disant que la grâce et la paix vous soient données, Paul parlait pour tout le monde, il couvrait bien ses bases. Non, il voulait dire qu'en fait, on n'a de paix vraiment que quand on est en Jésus-Christ, quand on a reçu cette grâce. Il va dire, verset 3, qu'il prie sans cesse pour eux. C'est merveilleux de prier les uns pour les autres. Souvent, on pense à telle ou telle personne, peut-être, et on dit, il m'a fait ça, ou j'aurais souhaité qu'il fasse ça, c'est dommage s'il avait pu faire ceci. Dès que vous avez ces genres de pensées, filtrez et dites, Seigneur, bénis cette personne. Aide-la à grandir. On va voir une merveilleuse prière de Paul pour les Colossiens et pour qu'on peut utiliser comme modèle un peu plus loin. Il disait qu'il priait sans cesse pour eux. Alors certains disent qu'il exagère, mais je crois qu'il avait cette attitude de prière qui faisait que dès qu'il pensait à eux, dès que pour une raison ou pour une autre, il venait à son esprit, il les remettait à Dieu. Et nous pouvons faire ça les uns pour les autres, à tout moment de la journée. J'aime bien sur mon ordinateur, j'ai un Jésus est un sauveur, j'ai un sauveur d'écran. Comment dire en français, je ne sais même plus. Un screensaver, un économiseur, c'est pas beau hein, comme mot. Un fond d'écran ou quelque chose qui vient bouger les pixels pour pas qu'ils fassent des trous sur la couche de phosphore de l'écran. Ce sont des photos qui apparaissent. Et comme ça, je vois des photos de chacun de vous, ou des groupes, quand j'ai la photo qui arrive, je peux dire une petite prière et me réjouir en pensant à vous et en vous portant sur mon cœur. Alors, il n'avait pas d'ordinateur, mais il passait beaucoup de temps dans la prière aussi. Trois choses dont il les complimente, la foi d'abord, l'espérance et l'amour. Trois caractéristiques d'une église en bonne santé. Trois ingrédients clés. La foi, l'amour, l'espérance, l'espoir. Paul en parle dans un autre passage, 1 Corinthiens 13. D'abord, la première chose, il leur dit qu'il a entendu parler de leur foi. Il se réjouit de leur foi. Aujourd'hui, on pense que la foi, c'est bien d'être une personne de foi, peu importe ce en quoi vous croyez. Là aussi, ça c'est un mensonge de l'ennemi. La foi n'a de valeur que par l'objet, la validité de l'objet de cette foi. C'est un peu, j'aime bien cette image de l'ancre d'un bateau. Vous pouvez avoir une super ancre en acier inoxydable reliée à votre bateau par une corde en polypropylène inaliénable, quelque chose de top. Mais selon l'endroit où vous allez planter cette ancre, ça va tenir ou pas. Si vous le mettez dans un fond rocheux, ça va trouver un bon endroit et ça va tenir votre bateau. Si vous la laissez tomber dans un fond sableux, l'ancre ne va pas pouvoir s'accrocher, vous allez dériver, vous n'allez pas être ancré. C'est pas la qualité de votre ancre qui est en cause, c'est l'objet de l'accrochage de votre foi, pour dévoiler l'image. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une foi toute petite avec un bon ancrage qu'une foi dans une mauvaise chose. C'est vrai qu'aussi des fois il faut que la foi elle soit la corde de l'ancre est 60 mètres et la vôtre n'a que 30 mètres. Là aussi vous allez. Donc il y a quand même une donnée de quantité. Mais Jésus a dit ce qui compte c'est pas la quantité. Si votre foi est là, elle est aussi petite que la plus petite des graines qu'il connaissait à l'époque, la graine de senevé, de moutarde. Vous pouvez dire au mont Boron d'aller agrandir l'aéroport. C'est peut-être ce qu'on va faire pour les Jeux Olympiques. La foi, l'amour, ça c'est la deuxième marque d'une église en bonne santé. C'est même quelque part la première. À ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons lorsque nous pouvons passer du temps ensemble, lorsque nous pouvons faire des pique-niques, lorsque nous pouvons prendre des cafés ensemble, lorsque nous pouvons jouer ensemble, lorsque nous pouvons faire des retraites ensemble. J'étais désolé l'an dernier qu'on n'ait pas pu faire une retraite à l'automne parce qu'on était trop pris avec notre propre déménagement. Et cette année, je crois que d'avoir pris du temps ensemble, d'avoir appris à mieux se connaître, on sent que l'Église est plus forte de ça. Puis finalement, il y a l'espérance. Et l'espérance, ce n'est pas « j'espère gagner au tiercé un jour ». Non, l'espérance, c'est la certitude d'un bien à venir. Ce n'est pas quelque chose qui est hypothétique, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va venir. Et donc Paul leur dit qu'il est heureux de savoir qu'ils ont déjà ces qualités, mais en fait il va leur écrire la lettre pour les mettre en garde contre tous les dangers dont nous avons parlé. Et encore une fois, c'est une lettre qui a été écrite il y a longtemps. Il n'y avait pas encore Internet. Ce n'était pas un email. C'était un papier. C'était écrit sur du parchemin. Ça avait été précieusement gardé, copié, recopié, jusqu'à nos jours, pour que nous aussi, nous apprenions que Jésus-Christ est tout ce qu'il nous faut, qu'il est prééminent en toute chose, qu'il est Dieu, qu'il nous aime. Amen.